italien UniCredit affiche moins 1%. Le groupe madrilène BBVA recule de son côté de 7%. On notera enfin une hausse de près de 1% pour Suez, qui a fait une nouvelle proposition dans les négociations de rachat par Veolia. Cette dernière perd 2% après l'avoir immédiatement rejetée. C'était Rémi De Michelis, investisseur pour RFI.
Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle ce site rfi.fr pour écouter et réécouter nos journaux à toute heure. Il est maintenant 18h10 à Paris, 17h10 en temps universel.
Radio G. 101.5 FM.
C'est FTC.
Non, aujourd'hui, les syndicats, ça sert plus à rien.
Ben si.
Ils ont négocié notre convention collective. Je gagne mieux ma vie.
Ils ont été avec moi quand je me suis cassé le bras pour le faire reconnaître en accident du travail.
Grâce à eux, j'ai des jours de congé pour m'occuper de ma mère handicapée.
Ah ouais?
Ah bah oui.
Ben si.
Ben si. On vous représente pour améliorer vos conditions de travail et pour que votre vie personnelle soit respectée. Du 22 mars au 6 avril, votez CFTC. CFTC avec un C comme constructif.
Luttons ensemble contre la Covid-19. Téléchargeons l'application Tous Anti-Covid. Oh, franchement, vivement qu'on entende plus ce message. Ah non, vraiment. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Eh bien, plus vous êtes nombreux à utiliser l'appli Tous Anti-Covid, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid, et ce n'est qu'un début. Ceci est un message du gouvernement.
Sur les ondes de Radio G et maintenant à l'écoute de l'oreille curieuse. Bienvenue dans la quotidienne des actualités culturelles, des découvertes locales, des propositions qu'on a envie de partager avec vous. Nous sommes lundi, c'est donc une nouvelle semaine d'émission, toujours du lundi au jeudi, de 18h10 à 18h50 approximativement, pour être honnête avec vous. Un lundi sur deux, vous avez rendez-vous avec le goûter de pensée, avec le croque-philo concocté par Émilie. Le désir sera aujourd'hui à l'honneur dans Croque-philo et ce sera en deuxième partie d'émission. Avant cela, il y aura Captain Mehdi. Mehdi, où es-tu? Bon, Mehdi n'est pas en studio avec nous ce soir.
Malheureusement.
On le salue très chaleureusement, mais on le réécoutera avec la rediffusion d'une des conquêtes du son et on va partir à l'ascension du chill. Ça a l'air mystérieux, mais c'est réel. Quant à moi, je vous ferai une nouvelle proposition dans la Selecta Podcast. Ah non, c'est pas vrai. Ce soir, c'est Céleste qui nous fait une Selecta. Salut Céleste.
Salut Anne-Lie. Tu as essayé d'usurper mon travail.
Tout à fait. Sur quoi va porter ta Selecta?
Je vais parler de financement participatif, des derniers projets que j'ai pu récolter, durant ma recherche.
Très bien, ce sera en début d'émission. On est ensemble pour encore 37 minutes et 24 secondes ou un petit peu plus. J'espère que tout va bien de votre côté du poste depuis que vous avez une heure de plus pour être en dehors de chez vous. Je pense que vous êtes ravis, nous aussi. La citation de ce soir est une citation de Albert Camus qui a écrit un jour « Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison » que ce soit dans leurs machines ou dans leurs idées. Albert Camus a dit. Et nous, on va débuter, bien entendu, avec un titre, un morceau de musique. Il s'intitule Malika. On y retrouve Voyou, le chanteur originaire de Nantes, et Ladaniva, qui est un groupe franco-arménien qui fait des choses tout à fait intéressantes, comme dirait Benoît. Bonne écoute.
Thank you.
Aujourd'hui, j'ai décidé de détourner la Selecta pour vous parler de 2-3 projets en financement participatif qui ont attiré mon attention, soit parce qu'ils sont locaux ou pour une autre raison. Commençons donc par un projet qui se passe à Corzé, donc c'est pas très loin d'Angers, hein, c'est à une vingtaine de kilomètres à l'est, juste au-dessous de Sèche. Là-bas, une certaine Sylvie Rabouan a un projet que j'ai trouvé particulièrement génial, celui de rouvrir le dernier commerce d'alimentation du village. Le but de La Petite Épicerie, qui est le nom que portera le commerce, et qui est sur Ulule, le projet sur Ulule, donc, sera de proposer un dépôt de pain et de pâtisserie, un relais poste et une épicerie de produits locaux. La volonté de la créatrice de ce projet est de créer un lien avec les habitants de Corzé, mais aussi de soutenir les producteurs locaux. Et je ne peux qu'encourager ça. Actuellement, le projet est certes entièrement financé, mais rien ne vous empêche de faire péter les scores pour leur permettre d'avoir la meilleure épicerie de tout le Maine-et-Loire et aussi leur offrir plus de stabilité. Le suivant se déroule à Angers même et n'est pas encore financé. Il s'agit du projet Ulule de 3 étudiantes de l'école d'ingénieurs Polytech Angers en génie biologique et santé. L'objectif est d'atteindre au minimum le palier de 100 € dans 10 jours, donc ça peut être facilement atteint. Le but est de sensibiliser les gens sur la maladie de l'endométriose, une maladie touchant l'utérus, causant le plus souvent des règles douloureuses. C'est une maladie qui est assez peu connue du grand public et assez taboue, d'où la volonté logique de ces 3 étudiantes d'en parler. Le financement du projet va servir à distribuer des kits de sensibilisation dans des endroits comme des salles d'attente, des cabinets médicaux, des établissements scolaires, etc. C'est un projet d'étudiantes, et l'ayant été moi-même, je sais à quel point ça compte. Et participer à ce projet pourra non seulement aider beaucoup de personnes à se sensibiliser au sujet de l'endométriose, mais aussi d'aider ces étudiantes dans leur projet. Pour la suite, on part entre Vannes et Angers, donc ça reste quand même local, pour le projet Bini, un kit de couverts qui permet d'éviter les déchets superflus lors de vos repas en dehors de chez vous. Imaginé par 2 femmes, Perrine et Alice, le but est évidemment de faire attention à l'environnement grâce à un kit de 4 couverts, une fourchette, un couteau, une cuillère et des baguettes, parce que pourquoi pas. Des couverts que vous pouvez laver et réutiliser indéfiniment, et le tout est fabriqué à l'aide de matières recyclables. L'objectif a été atteint sur Ulule depuis assez longtemps, mais c'est important aussi de soutenir ce genre de démarche. Et si vous voulez avoir votre propre kit de couverts réutilisables, n'hésitez pas, la campagne s'achève dans 10 jours. Direction Nantes cette fois-ci pour la ferme aux 1000 bras, Un grand projet citoyen de transition alimentaire, écologique et solidaire que vous pouvez soutenir sur le site KissKissBankBank. Le principe, vous l'avez deviné, est de lancer une ferme maraîchère non loin de la métropole de Nantes, permettant de proposer des prix bio, produits bio et locaux aux habitants de l'agglomération. Les dons vont servir à la mise en place de la structure pour ensuite lancer le circuit de production des aliments. Le projet n'est pas encore tout à fait financé, il reste encore 2 semaines, alors n'hésitez pas. Et pour terminer, je voulais évoquer le projet Ulule de Blind, une plateforme en ligne qui a pour ambition d'adapter des bandes dessinées en fiction audio. Imaginez que vous pouvez écouter vos BD favorites un peu partout. Et là, Blind souhaite s'attaquer à un sacré morceau, la saga best-seller de Christopher Leston et Didier Tarquin, L'Enfeuste de Troie. Je vous avoue que je n'ai jamais lu, mais je l'ai toujours vu sur les étals de la bibliothèque ou dans les librairies, et avec ce projet, je reste que bien de m'y mettre. Leur objectif est donc de transposer la BD en audio, et le montant de la campagne décidera du nombre de tomes adaptés. Le tout sera avec un casting somptueux composé de grandes voix du doublage français, avec notamment Emmanuel Curtil, mythique voix de Jim Carrey. Il reste 19 jours aujourd'hui, et contrairement au projet cité précédemment, c'est un peu plus de l'ordre du divertissement et du loisir, mais c'est bien de s'amuser un peu aussi. Tous les liens des campagnes Ulule et Kiss Kiss Bang Bang seront dans le podcast de l'émission d'aujourd'hui à la page de l'Oreille Curieuse sur le site de Radio G, alors je compte sur vous.
Merci beaucoup Céleste.
De rien.
Trop bien tous ces petits projets.
Oui.
Et grands projets, hein. Il y en a qui sont...
Des grands projets, oui. Des trucs qui sont vraiment ambitieux et même des trucs moins ambitieux mais qui sont quand même importants. Donc c'est bien aussi de soutenir toutes sortes de projets.
Qui ont tous du sens. Bon, merci beaucoup. On replonge dans nos habitudes et on retrouve Mehdi avec la conquête du son.
Bonjour auditrices et auditeurs. Aujourd'hui dans la conquête musicale, on s'intéresse à une épopée dans l'histoire du beatmaking avec comme point de départ l'artiste Nujabes, célèbre producteur, beatmaker et DJ japonais qui a inspiré les courants qu'on appelle aujourd'hui Lofi Hip-Hop et Chill-Hop. Nujabes, de son vrai nom Jun Seba, est pionnier de l'abstract hip-hop. L'hip-hop expérimental ou abstract hip-hop est un courant qui se démarque du reste de la scène rap par de nombreux aspects. Les thèmes sont très éloignés des préoccupations habituelles du hip-hop comme les faits de société, gang, criminalité, politique, inégalité. Et on y retrouve plus volontiers des paroles poétiques, abstraites, très influencées par la culture zen japonaise. Le style de Nujabes est très jazzy et chill. Il utilise par exemple des samples de Miles Davis, des samples de guitare jazz et bossa nova, ainsi que des samples de musique symphonique japonaise et européenne, contrastant beaucoup avec les instrumentales hip-hop qu'on pouvait entendre à cette même période. L'utilisation de samples de batterie acoustique old school, couplés avec des vieux samples d'instruments, ont donné un grain rétro à la musique de Nujabes, ce qui donnera les prémices du hip-hop lofi et du chill-hop, dont on parlera après. Par ailleurs, Nujabes s'est fait connaître en participant à la bande originale de l'animé iconique Samurai Champloo, un animé anachronique dans un Japon médiéval de l'ère Edo avec les fameux samouraïs, rythmé par une BO hip-hop abstracte, ce qui fait qu'aujourd'hui le lofi hip-hop et le chill-hop sont très associés à la culture animé manga du Japon. On écoute tout de suite un classique de Nujabes avec le morceau Haruarian Dance présent dans l'animé Samurai Champloo. Décède malheureusement d'un accident de voiture en 2010. De nombreux hommages lui seront donnés en musique par beaucoup de beatmakers, amis et fans. C'est son héritage qui inspirera le courant lofi hip-hop et chill-hop qu'on découvrira par la suite. Donc le hip-hop lofi regroupe majoritairement des instrumentales. Contrairement au hi-fi qui signifie haute fidélité et donc un son de qualité supérieure, le lofi consiste à détériorer le son. Une technique très utilisée dans le rock et le punk par exemple. Le but étant d'ajouter beaucoup de saturation pour accroître la chaleur et le grain des instruments, que ça soit samplé ou enregistré soi-même. Ajoutez à ça une batterie très old school, accompagnée d'un effet vinyle ou cassette sur le morceau, et vous avez un magnifique beat hip-hop lofi. Donc en somme, rien de très complexe, mais l'effet est très efficace. Voici un exemple de lofi hip-hop beat avec un extrait de Shower de Samashi. We'll be right back. vraiment de la musique pour se relaxer, se reposer ou travailler dans une ambiance calme dans sa chambre. On a l'utilisation de samples cool jazz, guitare, bossa nova, musique contemporaine et classique, et aussi des samples de bandes originales d'anime, et c'est là qu'on peut constater l'influence du Japon et donc de Nujabes sur ses courants. Donc, le Lofi a explosé au cours des dernières années sur YouTube de la même manière que le chillop, qui est tout simplement du hip-hop chill. Le Lofi hip-hop et le chillop sont deux sous-genres du hip-hop qui sont en fait très similaires. La seule différence que le Lofi abîme plus le son du signal pour donner un grain très particulier, mais sinon c'est pratiquement la même chose. Un exemple du succès du Lofi et du chillop est la chaîne YouTube Chill Crow, qui diffuse en direct des Lofi et chillop beats 24h sur 24 et 7 jours sur 7, et on va tout de suite aller voir ce qui s'y passe.
Alors j'ai pas encore ouvert la chaîne YouTube, j'ai oublié.
C'est pas grave.
Mais si vous êtes un peu patient, on va faire l'expérience.
Ça va arriver.
Chill Crow. Tu l'écris? Comme ça, tout le monde va essayer de se connecter en même temps.
C'est H-I-2-L-E-D K-O-W.
Yes, en plus c'est hyper bien référencé sur YouTube. Je viens direct de tester. Il y a quand même beaucoup de gens qui suivent ça. Allez.
Ce genre d'instrumental qui passe en boucle.
Ouais, donc désolé pour le petit cafouillage, mais je retiens l'adresse. En fait, c'est hyper cool.
Et c'est une chaîne qui a 7 millions d'abonnés. Et il y a d'autres vidéos en direct avec d'autres styles de Lofi et chillop beats. Donc, c'est vraiment quelque chose qui marche beaucoup en ce moment. Et donc, c'est deux phénomènes qui ont beaucoup d'initiés. Et dans ces deux courants, on trouve maintenant un nombre incalculable d'instrumental. L'évolution aujourd'hui, c'est que la composition fait partie intégrante du processus de création. Donc, je vais vous faire découvrir quelques petites pépites que j'affectionne particulièrement dans cet océan d'instrumental. Préparez l'application Shazam au cas où, sinon les liens seront disponibles dans le podcast de l'émission. On écoute un extrait du morceau Soulful de l'Indécis sur l'EP Playtime, un superbe EP. Et phasant avec le titre Ways To du talentueux producteur Omari Jazz. Jazz. Donc je pourrais vous faire écouter d'autres super morceaux, mais il y en a beaucoup trop. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous intéresser au hip-hop lofi et au chill-hop. J'espère en tout cas avoir éveillé votre curiosité. Et on va se quitter sur le morceau In Your Arms de Saïb. Portez-vous bien et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle conquête musicale dans l'oreille curieuse.
Oh,
Vous pouvez retrouver cette chronique de Mehdi et toutes les autres chroniques de la conquête du son sur le site de Radio G, www.radio-g.fr, à la page La conquête du son, c'est dans l'onglet Podcast Plus. Maintenant, vous savez tout, vous avez compris que vous étiez sur le 101.5 avec Radio G, et c'est bien sûr l'oreille curieuse. Et j'ai le plaisir de vous proposer de retrouver un de nos autres rendez-vous du lundi, le Croque Philo.
Bonjour.
Bonsoir Émilie.
Bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui en direct avec le printemps qui nous a rejoint tout dernièrement et qui se joint à moi aujourd'hui pour vous parler du désir. Le désir est le thème d'ailleurs du printemps des poètes de ce mois de mars. Le désir, cet obscur objet qui se prête sans doute bien au mouvement de la pensée poétique par son mystère, par une forme de dépassement de la raison. Et à propos de cet obscur objet du désir, le dernier film réalisé par Buñuel, Luis Buñuel, en 1977, Jean-Claude Carrière, qui a coécrit le film avec Buñuel, dira que le désir semble être une bien étrange mécanique, entêtante, obsédante, parfois à tel point que c'est l'état même du désir dont nous sommes désireux. Désirer, ce serait ce qui nous fait nous sentir vivants. Donc le désir nous tiraille, nous provoque. Nous vivons à travers une continuelle projection de nos désirs, sans savoir toutefois exactement dans quelle direction va le désir. Quel est l'objet réel du désir ? Que désire-t-on ? On désire faire la fête avec ses amis, manger un gâteau, réaliser un voyage rêvé de longue date. On désire une personne. Et en ces temps de restrictions et d'adaptation de nos quotidiens, le désir semble confiné souvent à l'impossible. Ils se réinventent sans cesse, ils sont forcés, contraints à changer d'objet. Mais ils nous sont permis, ils sont un monde possible, comme ce qui justement peut se réinventer à loisir, parce que par nature, le désir est inépuisable.
Mais est-ce qu'on peut définir le désir ?
Alors le désir est inépuisable et en plus il porte quelque chose d'insondable, de presque indicible. Ce caractère insondable du désir se niche au cœur d'une contradiction. Il semble infini et la période que nous traversons renforce la contradiction interne au désir. Je tends vers ce qui n'est pas réalisable de suite et que je ne désirerais plus d'ailleurs si je le réalisais. Ici et maintenant. Pourtant, je m'attache au désir comme tension vers quelque chose qui n'est même pas assuré de se réaliser, qui n'est pas situé clairement dans la réalité de mes actions, mais qui se joue comme une projection, parfois salvatrice, dans une direction que j'ignore souvent, en même temps que je la désire. Donc il ne s'agit pas de vouloir, car notre volonté est dissemblable du désir. Alors que le désir existe par le fait même de ne pas s'inscrire dans le réel imminent, la volonté, elle, est un moteur de nos actions. Elle est même porteuse d'une morale pour Kant. Elle tend vers le réel avec force. Elle dit « je veux ». Et elle a le pouvoir de se déterminer vers un objet selon ses propres raisons. Le désir, lui, s'accorde avec l'illusion et dit « je voudrais ». On dit souvent de lui qu'il manque de volonté, justement. Il serait faible, selon la raison, voire réduit au vide et à la passivité, du côté du rêve ou de ce qui n'est pas. Mais lui que nous disons soumis aux passions, ne peut-il pas s'exprimer comme liberté dans un débordement du réel ? À l'heure où nos volontés sont bousculées, alors que nous n'avons sans doute paradoxalement jamais été si présents à nous-mêmes, notre volonté fait fi de la persévérance, qui a duré, qui s'est peut-être épuisée à s'adapter extensiblement, jusqu'à maintenant, et depuis un an. Et nous en venons peut-être à nous manquer à nous-mêmes, Là intervient justement le désir, comme un au-delà de la volonté. Il nous reste notre capacité à désirer, à nous réfugier dans l'illusion d'un réel d'après ou différent, fantasmé. Si le réel nous échappe, bien que cela reste troublant, implacable, difficile parfois, nous pouvons nous accorder le droit de manquer un peu au réel, comme une extension vers des rêves à habiter.
Et quand la volonté manque, que peut faire le désir alors ?
Le désir viendrait nous consoler de voir nier nos volontés alors que nos actions, nos activités sont limitées, condamnées, reportées, annulées. Et cette difficulté à nous projeter dans cette réalité-là, ce serait cette persévérance du désir en nous. Pour Spinoza, le désir, c'est l'essence de l'homme. L'homme est par nature, selon lui, un mouvement pour persévérer dans l'être, pour exister encore et toujours plus. C'est une force croissante qui s'affirme parce que le désir est vécu comme une joie. Donc au-delà d'une temporalité classique de nos volontés, au-delà des temporalités marquées, concrètes du quotidien, désirer nous projette vers une temporalité plus abstraite, parfois tout aussi dense, mais qui ne peut s'inscrire socialement, professionnellement, affectivement, de façon aussi évidente qu'avec la volonté dans le réel. Le désir est moins réaliste, en cela qu'il est moins inscrit dans nos espaces sociaux, plus intimes aussi, jusqu'à paraître déréel parfois. Il submerge en quelque sorte nos actions volontaires, il les dissout jusqu'à nous perdre. Le temps est dilué par le désir, mais c'est notre être tout entier qui se tend par le désir, jusqu'à effacer la volonté, la dépasser dans sa force, dans son autorité. Il renvoie à une réalité plus diffuse, certes, et vient parfois confondre nos ambitions avec le désir, il vient brouiller les pistes de la raison. Il n'est pas toujours évident d'organiser notre désir et de hiérarchiser nos désirs, d'autant plus justement qu'on se passe de l'ordre social, ou même de la nature des choses. Car avec le désir, les choses ne sont jamais comme elles sont, ou comme elles devraient être. Par essence, le désir cherche toujours à faire exister ce qu'il aimerait qu'il soit, ce qu'il voudrait, ce dont il rêve, et non à connaître ou à reconnaître ce qu'il est. Le désir ne peut se contenter de la réalité. Il ne sert à rien de dire au désir « c'est comme ça » ou « ça ne fonctionne pas comme cela » parce que le désir ne peut pas l'entendre. Certains diront qu'il est au-delà de tout bien et de tout mal, de la raison. Au-delà de la raison, pour Nietzsche notamment, pour qui il est une puissance de désirer. D'autres diront au contraire que nous pouvons hiérarchiser nos désirs en les calquant sur une forme de réalité matérielle, dira Épicure. L'incarnation est essentielle dans le désir, car il n'est jamais loin du corps et de la sensation. D'ailleurs, pour Épicure, dans la hiérarchisation des désirs, les premiers sont les plus naturels et nécessaires. Ce sont ceux qui permettent au corps de vivre, ni plus ni moins, sans couper les nécessités du corps de celles de l'esprit. Il y a bien relation dans le désir entre le corps et la pensée. D'où cette importance du désir de pouvoir désirer en paix, un monde d'après ou un monde différent. Reconnaître le désir, c'est sans doute pas suffisant à nos vies, hein, mais néanmoins nécessaire. Ce serait aujourd'hui dépasser une forme de réalité matérielle tout en s'y adaptant, sans se limiter à elle, parce que le désir déborde de cette réalité. Dans ce débordement se joue une poésie de l'existence, la possibilité que nous avons de penser au jour suivant qui sera meilleur peut-être, plus agréable à vivre, plus en phase avec nos aspirations, notre besoin de liberté, pardon, parce que le désir est en ce sens une épreuve de la liberté. C'est en somme la capacité à se projeter sans se sentir borné par le réel. Et si on commande moins nos désirs que notre volonté, le désir peut d'ailleurs être plus tenace au corps et à l'esprit que la volonté. Il est distinct de l'action et de la réalisation, comme le montre le fantasme au sens psychanalytique du terme. Et si notre capacité à désirer est sans limite, tous les désirs, eux, ne sont certainement pas à réaliser, bien sûr. Il n'y a d'ailleurs rien de désirable ou de chose bonne à désirer en soi, pour Spinoza. Ce n'est pas le caractère réalisable, bon ou mauvais, qui limite le désir. Si, plus que renvoyer à ce qui n'est pas aux limites de notre capacité, le désir nous disait justement ce qui n'est pas encore. Et s'il libérait nos esprits des contraintes qui nous sont imposées du dehors, mais aussi par nous-mêmes. Si nos espoirs sont rares ou que les raisons d'espérer nous semblent parfois perdre du sens, il nous est toujours possible de désirer l'impossible.
Merci beaucoup, Émilie, pour ces perspectives sur le désir. C'est vaste, ça donne envie de désirer en tout cas des choses.
On a tout le printemps pour cela et je vous propose dans les prochains croque-philo pour continuer un peu sur cette célébration aussi du printemps, de nos émotions mais aussi de nos sensations, une petite série de chroniques sur les cinq sens.
Ça me paraît très à propos avec ce renouveau printanier. Moi, je me suis rendu compte en t'écoutant que j'avais jamais forcément distingué cette question de désir et de volonté. T'aurais une clé un peu pour... Enfin voilà, je sais pas. J'ai été surprise en fait de cette distinction-là.
Moi, alors c'est une distinction qui est plutôt classique en philosophie, mais c'est vrai que dans la vie quotidienne, toutes et tous, on a tendance complètement à mêler l'un à l'autre, à peu les distinguer. Peut-être qu'on pourrait se dire que le repère entre la volonté et le désir, c'est peut-être justement les forces que l'on se donne et les actions qu'on met en place pour réaliser justement nos aspirations. Et on parle souvent de cette force de la volonté. Non. Mais on inscrit aussi cette force toujours dans quelque chose souvent de raisonnable, voire de rationnel. Alors que le désir, lui, il échappe un petit peu à tout ça. Mmh. Et parfois, quand on dit à quelqu'un prendre ses désirs pour la réalité, c'est souvent parce que l'idée du désir manque un peu de rationalité et puis parfois même de courage ou d'ambition. Et souvent, on renvoie le désir comme ça, de façon même un petit peu négative, à ce qui n'est pas suffisamment rationnel ou réaliste. Alors que la volonté, elle s'accompagne généralement des deux pieds dans la réalité.
Génial, merci. C'est comme un bonus à cette chronique. Et je vais réfléchir pendant les deux prochaines semaines à peut-être comment accorder les désirs et la volonté.
Oh, grande question.
Oui. Merci beaucoup, Émilie. On pourrait discuter toute la soirée sur la philosophie, et c'est aussi un vrai plaisir. On va devoir quand même rendre cette antenne. On peut réécouter toutes les chroniques que tu as réalisées jusqu'ici sur leur page Croque Philo sur le site de Radio G, avec bientôt celle-ci également. Très bonne soirée à toi.
Bonne soirée, Annie. Bonne soirée à tous.
Merci et à dans deux semaines avec les cinq sens. Merci à vous aussi d'avoir été à l'écoute de l'oreille curieuse. Je ne sais pas encore si on se retrouve demain ou non. On vous avait préparé une émission vraiment spéciale que vous retrouverez la semaine prochaine. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant car on est en train de travailler, préparer, échanger. Alors je ne vous donnerai que des infos fiables, mais pas tout de suite. Donc peut-être qu'on se retrouve demain, peut-être pas par la force des choses. Ce sera la surprise. D'ici là, passez une très bonne soirée. Vous pouvez écouter Radio G avec à 19h, ça dégouline dans le cornet, l'émission consacrée au rock et compagnie. Vous pouvez nous envoyer des messages via notre site ou nos pages des réseaux sociaux. Vous savez tout ça par cœur. À demain ou à mercredi et très très bonne soirée. FM.
count the days you disappear. I have to ask, are you fucking your ex?
We'll be right back.
5 FM.